Le 13-14, Marion Lourd.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce 13-14 au programme aujourd'hui. Vaccin obligatoire l'an prochain et reconfinement dès lundi, submergé par la cinquième vague de Covid, l'Autriche va frapper fort. Nous serons en direct de Vienne. Dans un instant, nous nous pencherons aussi sur la situation chez nous. Le président de la République exclut pour le moment de confiner ceux qui n'ont pas reçu l'injection. Pourquoi une telle différence dans la gestion du virus? Élément de réponse dans le journal. Dans le journal aussi, retour sur le mystère Ascoval. En deux jours, le propriétaire allemand de l'aciérie de Sainte-Solve dans le Nord a changé d'avis sous pression de Bercy, il renonce à délocaliser une partie de son activité outre-Rhin. On vous dévoilera les dessous de cette discussion. On en parlera aussi avec notre invité, le député communiste du Nord, Fabien Roussel. Dans le journal encore, déforestation record en Amazonie l'an dernier, inquiétude de Sylvain Angerand, porte-parole de l'association de défense de la forêt Canopée.
On a une accélération très rapide de la déforestation hein, qui avait commencé avant l'arrivée au pouvoir de Jair Bolsonaro, hein, faut être clair là-dessus, mais qui s'accélère parce qu'on a un démantèlement des lois, parce qu'on a un démantèlement des contrôles, et c'est ça qui nous inquiète le plus.
Tout le détail dans un instant. On écoutera aussi le nouvel album de la chanteuse Adèle, on parlera prix du blé dans le vif de l'histoire, et on essaiera de désamorcer le débat brûlant sur le nouveau pronom IL, un pronom neutre qui fait son entrée dans le Petit Robert. L'invité de 13h30 sera la linguiste Julie Neveu. Vos questions 01 45 24 7000. Le 13-14, vous avez le programme, c'est parti.
France Inter. Le 13-14.
C'est une première en Europe. Face à la cinquième vague de Covid et au taux de contamination qui explose jusqu'à 1700 cas pour 100 000 habitants dans certaines régions, l'Autriche va rendre la vaccination obligatoire dès février prochain, annonce du chancelier ce matin. Le pays décrète aussi un reconfinement dès lundi. On retrouve à Vienne la correspondante de France Inter, Isor Ias. Bonjour Isor.
Bonjour à tous.
Vienne confinée déjà depuis lundi, les non vaccinés, ça n'a pas suffi?
En effet, beaucoup d'experts craignaient qu'un confinement pour les seuls non vaccinés ne suffise pas face au nombre croissant d'infections en Autriche, pays de moins de 9 millions d'habitants qui enregistre désormais 15 000 nouveaux cas quotidiens. Le gouvernement leur a finalement donné raison en décidant d'un confinement pour l'ensemble de la population. Il devrait entrer en vigueur ce lundi pour 20 jours maximum. Selon le chancelier, au 13 décembre, les personnes vaccinées et celles récemment rétablies du coronavirus devraient pouvoir en sortir. Durant cette période, tout va de nouveau fermer dans le pays. Commerce non essentiel, restaurants et lieux de culture. Les Autrichiens ne pourront sortir que pour faire leurs courses, s'aérer ou travailler. Mais le télétravail est fortement recommandé.
Et Isor, je le disais, le gouvernement souhaite également rendre la vaccination contre le coronavirus obligatoire dès l'an prochain.
Oui, une décision radicale mais nécessaire alors qu'à ce jour, seuls 66% des Autrichiens ont reçu leurs deux doses de vaccin. Un chiffre bien trop bas selon le chancelier Alexander Schallenberg.
Nous n'avons pas réussi à convaincre suffisamment de gens de se faire vacciner. Nous devons voir la réalité en face et nous avons pris une décision très difficile. La décision d'une vaccination générale obligatoire dans tout le pays, elle entrera en vigueur à partir du 1er février de l'année prochaine, en 2022.
Une manifestation rassemblant des anti-vaccins et soutenue par l'extrême droite est prévue ce samedi dans la capitale autrichienne.
Isor Ias en direct de Vienne pour France Inter. Merci à vous. L'Allemagne, de son côté, n'exclut pas, elle aussi, un confinement général. Les restrictions en cours ne vont pas assez loin, selon l'autorité sanitaire d'Outre-Rhin. Elle prône l'interdiction des grands événements, la fermeture des bars et restaurants mal aérés, la réduction des contacts privés. La Chambre haute du Parlement doit discuter aujourd'hui des mesures déjà annoncées, retour massif au télétravail et restrictions d'accès à certains lieux pour les non vaccinés, entre autres. Chez nous, le virus reprend aussi de la vigueur. Le nombre de classes fermées est au plus haut depuis la rentrée, un peu plus de 4000, soit 0,8% des classes françaises. Et pourtant, en France, il n'est pas nécessaire de reconfiner les non vaccinés, comme l'a fait l'Autriche dans un premier temps. C'est ce qu'affirme aujourd'hui le président de la République. Il faut dire que le nombre de contaminations autour de 20 000 par jour chez nous est trois fois moindre que chez notre voisin autrichien. Cela dit, Santé publique France confirme aujourd'hui que l'épidémie repart et appelle à la remobilisation sur les gestes barrières. Sophie Bécherel, pourquoi ne va-t-on pas plus loin comme nos voisins ? Parce qu'une épidémie ne se résume pas au nombre de cas ou à la couverture vaccinale, martèlent les épidémiologistes. Plusieurs facteurs entrent en jeu pour en comprendre la dynamique et il faut tous les prendre en compte pour comprendre les différences entre nos voisins et nous. Par exemple, l'Autriche et l'Allemagne n'ont pas rendu obligatoire le vaccin pour le personnel soignant ou travaillant en maison de retraite. Le pass sanitaire n'est pas non plus obligatoire au restaurant comme chez nous. Ces différences comptent, insiste Didier Chez, épidémiologiste à Santé publique France.
Alors, ce qui est parfois difficile à comprendre, c'est que les dynamiques sont différentes dans des pays qui ont des niveaux de couverture vaccinale à peu près équivalents. Ce qu'on observe quand même avec l'Autriche et l'Allemagne, en particulier, hein, l'Allemagne, ils ont plus de 60 000 cas quotidiens alors qu'on est à 20 000 actuellement en France. Donc, ils ont une situation qui est largement plus dégradée que la nôtre. Ils ont un niveau de couverture vaccinale qui est plus faible et puis surtout, ils ont des mesures de distanciation qui ne sont pas complètement les mêmes. Il est évident que de toute façon, s'il devait y avoir une dégradation continue et encore plus importante des indicateurs épidémiologiques, que les options seront sur la table pour que le décideur puisse décider en toute connaissance de cause des mesures à prendre.
À notre micro, Jean-François Delfraissy plaidait pour reconsidérer le recours au télétravail. Ce matin, la directrice de Santé publique France a souhaité une remobilisation de chacun. On sait ce qu'il faut faire, a dit en résumé Geneviève Chêne. Convaincre les 12% de non-vaccinés, faire la troisième dose dès qu'on est éligible, respecter scrupuleusement les distances, mettre le masque en intérieur, se laver les mains et s'isoler quand on est positif. Avant de parler reconfinement, les épidémiologistes pensent qu'on doit revenir aux fondamentaux. Or, le suivi Covid-Prev montre qu'on ne cesse de se relâcher dans les gestes barrières.
Pas de reconfinement donc pour les non-vaccinés à ce stade, mais un durcissement des contraintes n'est pas exclu. Par exemple, le retour du masque obligatoire dans les lieux soumis à passe sanitaire, comme les cinémas ou les concerts. La ministre de la Culture semble en tout cas l'envisager.
Il y a toujours la possibilité de renforcer un certain nombre de mesures. Je pense en particulier au port du masque, qui pour l'instant est facultatif dans les salles, qui est à la discrétion des responsables de salles ou du préfet.
Il n'est pas obligatoire, c'est en fonction des salles. En fait.
Voilà,
c'est
les salles qui décident. Là, il y a toujours la possibilité de le rendre obligatoire. Un point très important sur lequel j'insiste, c'est que vraiment les mesures qu'on appelle barrières, j'aime pas ça, mais mesures de protection, c'est-à-dire le port du masque bien entendu, le lavage des mains, l'aération des salles, tout ça doit être renforcé, bien expliqué. Nous avons notre sécurité entre nos mains. La France est en mesure de surmonter cet obstacle de la nouvelle vague du Covid.
Roselyne Bachelot, ministre de la Culture sur LCI ce matin. Eux poursuivent leur mouvement de protestation contre le pass sanitaire et la vaccination obligatoire des soignants. Route encore bloquée en Guadeloupe. Cinquième jour de mobilisation à l'appel d'un collectif de syndicats et d'organisations citoyennes. Le ministre de l'Intérieur annonce l'envoi en renfort de 200 gendarmes et policiers dans l'île pour rétablir, je cite, l'ordre républicain. Emmanuel Macron veut montrer qu'il est le président des territoires. Le président démarre aujourd'hui un déplacement dans les Hauts-de-France, d'abord dans le Nord et l'Aisne, avant de passer le week-end au Touquet, puis dans sa ville natale d'Amiens. Le chef de l'État qui arrive avec son carnet de chèques. Il devrait dès aujourd'hui annoncer 100 millions d'euros d'aide supplémentaire dans le cadre du pacte Sambre à Vénois-Thiérache. Dans les Hauts-de-France, justement, que s'est-il passé pour que le propriétaire de l'usine Ascoval renonce finalement à délocaliser provisoirement 40% de son activité vers l'Allemagne et son énergie moins coûteuse. En tout cas, Sarstal, le propriétaire allemand du site de Sainte-Solve, qui emploie près de 300 personnes, garde finalement son activité en France à la demande du ministère des Finances. Bonjour Maxime Debs.
Bonjour.
Vous avez une piste sur ce qui a pu peser dans cette discussion?
Eh bien, selon nos informations, l'accord a été obtenu avec l'actionnaire allemand à la suite d'une concession demandée à la SNCF, cliente importante d'Ascoval, à qui l'on aurait demandé de payer plus cher les rails qu'elle achète à Saint-Solve pour tenir compte de la flambée des prix de l'électricité, trois fois le cours d'il y a quelques mois. Un témoin des discussions d'hier soir y voit une certaine logique. Lorsqu'un produit coûte plus cher en fabrication, normal de payer plus cher. Encore faut-il que la SNCF accepte. La compagnie ferroviaire estime de son côté que tout ça est d'abord un problème de coût d'électricité et que la SNCF est un client parmi d'autres d'Ascoval. L'État reste peu disert. La direction française d'Ascoval renvoie à l'actionnaire allemand qui devrait communiquer dans les prochaines heures. Il devait le faire ce matin, selon Bercy, mais l'affaire semble prendre apparemment un peu plus de temps.
Et on suivra tout cela avec vous, Maxime Debs, du service économie de France Inter. Merci. Pour développer cette question d'Ascoval, encore un peu mystérieuse donc, avec nous, Fabien Roussel, député du Nord et candidat PC à l'élection présidentielle. Bonjour.
Bonjour.
Alors, il y a eu une alarme des syndicats sur cette question d'Ascoval il y a deux jours, puis l'intervention de Bercy, et en deux jours, la direction renonce à délocaliser provisoirement l'activité. C'est une victoire de l'État stratège ?
Bah d'abord, c'est la victoire à mettre sur le compte des salariés qui sont, eux, les véritables lanceurs d'alerte, les plus vigilants à protéger leur outil de travail comme ils le font depuis plusieurs années. Et donc, c'est d'abord eux qui m'ont alerté et puis qui ont alerté donc l'opinion publique et le gouvernement. Mais surtout, je ne sais pas encore aujourd'hui quelle sera la véritable issue. Nous attendons une confirmation. D'après les salariés, l'actionnaire Sarstal serait revenu sur sa décision. Mais dans quelles conditions ? Est-ce véritablement à la SNCF de payer plus cher les rails qui sont produits là-bas, ou est-ce à l'État de baisser la facture d'électricité pour toutes ces industries électro-intensives, ces industries qui consomment beaucoup d'électricité?
Voilà, Fabien Roussel, vous nous confirmez effectivement cette piste de la SNCF qui paierait plus cher ses commandes? Vous avez confirmation de ça?
Non, pas du tout. Je n'ai aucune information supplémentaire. Ce sont des bruits qui courent, effectivement. Mais ce que nous demandons, nous, et que j'ai déjà demandé à plusieurs reprises au gouvernement, c'est qu'il baisse les taxes sur l'électricité, autant pour les ménages que pour les entreprises, pour notre industrie. Nous avons une industrie décarbonée qui provient de nos centrales nucléaires. Elle est donc, c'est l'électricité la plus verte qui soit, qui n'émet pas de gaz à effet de serre.
Mais les entreprises et les ménages, c'est pas tout à fait. Les entreprises et les ménages, c'est pas tout à fait pareil, Fabien Roussel. Les entreprises, elles ont des contrats de gros, elles peuvent négocier plus facilement, elles achètent à l'avance. Les problèmes de tarifs ne sont pas les mêmes. D'ailleurs, on se pose la question sur cette problématique des tarifs. Est-ce que c'était la vraie raison pour Ascoval de délocaliser une partie de son activité?
À ça, je vous confirme. D'abord parce que, à cause de la hausse de l'électricité, y compris pour les entreprises, la facture d'électricité d'Ascoval a été multipliée par 3. Ils devaient de 60 euros du mégawatt, ils sont passés à 180 euros du mégawatt pour la tonne d'acier produite. Ça, c'est la réalité pour les entreprises. Et donc, effectivement, c'est un coût pour les entreprises. Et je défends aussi les entreprises et la possibilité qu'ils aient accès à une électricité moins chère. C'est aussi comme ça que l'on va réindustrialiser le pays et les inciter à produire ici, parce que nous avons une électricité décarbonée. C'est un enjeu industriel majeur. Alors, c'est pour ça que l'État doit aussi s'adresser, doit baisser les taxes sur l'électricité française, pour inciter les entreprises à l'utiliser et à investir ici.
Alors on rappelle que ça fera moins d'argent pour l'État aussi. Fabien Roussel, est-ce qu'on est sûr vraiment qu'il n'y avait que la question de l'électricité? Parce que le Sarstal, l'Allemand qui a racheté l'usine de Sainte-Solve, l'a racheté il y a 4 mois. Est-ce qu'il n'y a pas aussi tout bêtement une question de patriotisme économique? Voilà, on ramène l'usine, à une partie de l'usine à la maison.
Et d'abord, c'est Sarstal, l'actionnaire, a des engagements à prendre parce qu'il y a eu 60 millions d'euros d'argent public versé pour soutenir cette reprise d'activité. Donc Sarstal a des engagements qu'il doit tenir. Et parmi ces engagements, c'est de produire ici à Saint-Solve cet acier vert décarboné, comme nous le précisons. Et puis, c'est effectivement la hausse du coût de production qui a conduit à délocaliser en Allemagne dans ces hauts fourneaux qui tournent au charbon. Et franchement, c'est vraiment d'un cynisme. C'est comme si la COP26 n'avait jamais eu lieu.
Donc d'après vous, en fait, on a bien fait de choisir ce repreneur, même s'il est allemand, en clair.
Mais c'est un véritable industriel. Il a pris des engagements, maintenant il doit les tenir et je souhaite qu'il puisse travailler avec les salariés et dans le dialogue et ne pas prendre des décisions comme celle-là qui rompt le pacte que nous avons passé avec eux et nous avons mis beaucoup d'argent public.
Merci.
Et donc pour les salariés, c'est aussi leur argent.
Merci Fabien Roussel, député du Nord et candidat PC à l'élection présidentielle. Merci à vous de nous avoir répondu sur France Inter. Le chômage attendu en baisse reste stable au troisième trimestre selon le Bureau international du travail, soit un taux de 8,1%, 2 400 000 chômeurs. Le nombre d'emplois créés a augmenté, explique l'INSEE, mais la population active aussi. En clair, selon la ministre du Travail, la reprise économique a incité certains chômeurs qui ne cherchaient plus à se mettre activement en quête d'un emploi. Ce n'est pas véritablement un raz-de-marée, mais tout de même une hausse significative de la générosité des Français. C'est la deuxième plus élevée depuis 2014. Nous avons donné plus l'an dernier, selon l'étude du réseau d'experts Recherche et Solidarité, étude qui se fonde sur les dons déclarés à l'administration fiscale. Bonjour Béatrice Duguay.
Bonjour.
Plus de dons, plus élevés, mais ça varie selon les profils et les secteurs.
Assez clairement, cette hausse est liée aux conséquences économiques de la situation sanitaire, puisque les dons fléchés vers l'aide aux personnes en difficulté augmentent sensiblement. Le relèvement du plafond pour le dispositif Coluche a, semble-t-il, joué son rôle, dispositif qui permet aux Français de bénéficier d'une réduction d'impôt de 75% pour un don allant jusqu'à 1 000 euros contre 546 avant la crise. Dispositif d'ores et déjà reconduit dans la loi de finances pour 2022. Le bémol, c'est que cet avantage limite, voire se fait aux dépens des autres secteurs bénéficiaires des dons, la recherche médicale ou l'éducation notamment. Alors, qui sont les généreux? Des plus de 60 ans en majeure partie, mais les auteurs de l'étude constatent que proportionnellement à leurs revenus, eh bien, les moins de 30 ans ont fait un bel effort avec un don moyen de près de 350 euros. Où sont ces généreux? En Ile-de-France, en Bretagne, en Auvergne-Rhône-Alpes, pour les trois premières places du palmarès, si je puis dire.
Béatrice Duguay, merci à vous. Toute autre hausse, beaucoup moins réjouissante, c'est même un record alarmant. La forêt amazonienne perd du terrain à un niveau inédit, 22% de sa surface. C'est ce que montre le système de surveillance brésilien par satellite. Bonjour Sandy Dauphin.
Bonjour.
Le président brésilien a promis de lutter contre le déboisement de ce poumon de la planète, y compris récemment, lors de la COP26. Quand on voit les chiffres, il y a de quoi douter.
Oui, entre l'été 2020 et l'été 2021, plus de 13 200 km² de forêt tropicale ont disparu. Un déboisement constaté par les satellites de l'Institut National de Recherche Spatiale du Brésil. C'est une déforestation qui s'accélère alors que le président brésilien affirme lutter désormais contre le déboisement. Sylvain Angerand de l'Association de Défense des Forêts Canopée doute du réel engagement du Brésil.
Jair Bolsonaro, il a été élu avec l'appui de l'agronégoce, c'est-à-dire les gens qui sont impliqués dans le business du soja, mais aussi du bétail, de la viande, qui sont les deux principales causes de déforestation. Et aujourd'hui, une des causes aussi d'accélération de cette déforestation, c'est l'ouverture de vastes pans de la forêt amazonienne à l'extraction minière. Le Brésil s'était engagé à ralentir sa déforestation, à la réduire de moitié en 2020. Et ce qu'on voit, c'est que sur le terrain, les mesures ne sont pas prises.
À la COP26 de Glasgow, le Brésil a promis d'arrêter la déforestation illégale en 2028. Les ONG sont sceptiques, puisque le Brésil ne s'attaque pas au problème. Il faut, disent-elles, que la communauté internationale agisse pour limiter l'importation de viande de bœuf, de soja, de bois, qui aggrave la déforestation, ou bien en obligeant les négociants de matières premières comme le géant américain Cargill à assurer la traçabilité de leurs produits. L'Europe prépare une législation en la matière.
Et sur cette hausse de 22% de la déforestation, Sandy Dauphin, spécialiste environnement de France Inter, merci. Des forêts amazoniennes aux champs indiens. Le Premier ministre Narendra Modi vient de l'annoncer. Il retire finalement trois lois de réforme de l'agriculture extrêmement controversées. Point final d'une révolte paysanne exceptionnelle dans le pays. 15 mois de protestation et plus de 700 morts parmi les agriculteurs. Une telle marche arrière du gouvernement indien face à un conflit social, c'est inédit mais non sans arrière-pensée. Correspondance à New Delhi, Sébastien Farcy.
La persévérance des paysans a payé. Après 15 mois à braver le froid glacial puis la chaleur torride de New Delhi, le gouvernement cède. C'est la première fois depuis 7 ans que Narendra Modi revient sur une réforme majeure. Le Premier ministre affirme qu'il le fait car il n'aurait pas réussi à convaincre certains paysans. Mais le vrai objectif est évident. La révolte agricole pourrait coûter cher à son parti lors des élections à venir en Uttar Pradesh, le plus grand état du pays. Kamaljit Singh est porte-parole du syndicat paysan Punjab Kisan Union.
C'est une victoire, mais Modi restera le vilain de ces manifestations agricoles. Nos revendications n'ont pas changé depuis le premier jour, mais lui a attendu plus d'un an pour annuler cette réforme. Et en attendant, plus de 700 paysans sont morts sur les routes. C'est cela qu'a fait Modi. Il n'a pas retiré cette réforme, mais retardé ce retrait d'un an.
C'est le Parlement, réuni à partir de la fin novembre, qui devra procéder à l'abrogation officielle de ces lois. Et beaucoup de paysans pourraient maintenir leur sit-in autour de New Delhi en attendant que ce retrait soit effectif. À New Delhi, Sébastien Farcy, RFI pour France Inter.
En France, une commission de reconnaissance et de réparation sera créée pour les victimes de pédocriminalité au sein de l'Église. Décision prise par les responsables des congrégations religieuses réunies à Lourdes. Commission différente de celle mise en place par les évêques il y a 10 jours, mais mission comparable. Il s'agira de reconnaître le statut de victime et de conduire à une réparation financière. Cette nouvelle instance sera présidée par le magistrat honoraire Antoine Garapon. Direction maintenant la cour d'assises spéciale de Paris pour notre chronique Arrêt sur audience. Chaque semaine, les moments forts et les coulisses du procès des attentats du 13 novembre 2015. Aujourd'hui, c'est avec Sophie Parmentier. Bonjour Sophie.
Bonjour Marion.
Le procès entre dans sa 11e semaine. Les grands témoins se sont succédés à la barre ces derniers jours. Et un mot est revenu plusieurs fois dans leur bouche pour qualifier ces attentats, le mot échec.
Oui, c'est vrai que j'ai été frappée cette semaine par la répétition de ce mot. Le premier qui l'a prononcé, c'est l'ex-patron de la DGSE, le chef des agents secrets du renseignement extérieur, celui qui traquait les djihadistes à Raqqa ou à Mossoul, Bernard Bajolet. Il est venu à la barre mardi et il a dit qu'il était abasourdi par l'ampleur de ces attentats, que ses services n'ont pas pu éviter, et il a martelé ce mot échec. Le mot échec dans la bouche encore de l'ex-ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, qui est venu lui aussi à la barre devant la cour, et il a dit que jusqu'à son dernier souffle, eh bien, il se demanderait comment il aurait pu faire autrement pour éviter ces attentats coordonnés qui étaient tant redoutés et dont l'ampleur a bouleversé jusqu'au sommet de l'État. J'étais au bord des larmes, a dit à demi-mot Bernard Cazeneuve. On a entendu aussi, face à la cour, c'était une image inédite, François Molins, vous savez, ex-procureur de la République de Paris, et lui aussi a livré ce sentiment d'échec. François Molins, qui était particulièrement ému, il a raconté les scènes de crime, notamment les images du Bataclan. Il a retenu une image d'une femme, cheveux au carré, la tête posée sur un sac à main où un téléphone portable n'arrêtait pas de sonner. Il a dit qu'il était rentré 3 fois dans le Bataclan, qui ne voulait pas croire à ce qu'il voyait. En tout cas, ces attentats d'une ampleur inégalée, eh bien, François Molins, comme Bernard Cazeneuve, ont expliqué que l'État avait la conviction à l'été 2015 qu'il devenait inévitable, qu'il savait qu'on allait être frappé, mais personne ne savait où, ni par qui, ni quand exactement. Et la traque des services de renseignement, eh bien, n'a pas suffi à éviter ces attentats.
Et Sophie, vous avez aussi entendu les enquêteurs au procès cette semaine. Ils ont décortiqué les rouages de cette machine terroriste de préparation des attentats.
Oui, les enquêteurs de la DGSI qui ont décrypté cette machine à fomenter les attentats, elle avait un nom, la COPEX, pour cellule des opérations extérieures de Daesh. Elle avait un chef originel, Al Adnani, ex-porte-parole de Daesh, ex-numéro 2, qui avait pris pour bras droit Oussama Attar, qui est le commanditaire présumé de ces attentats. Oussama Attar, qui est un accusé de ce procès, mais un accusé absent puisqu'il est présumé mort en Syrie. Alors on a retracé son parcours, il a pris la route de Djihad en Irak dès 2004, a été arrêté en 2005 dans la prison d'Abu Ghraib. C'est là où il a rencontré plusieurs futurs cadres de Daesh. Et puis, les enquêteurs de la DGSI ont aussi raconté le parcours syrien cette semaine d'Abdelhamid Abaoud, vous savez, le coordonnateur présumé des attentats, membre des commandos des terrasses, celui qu'on avait retrouvé dans un buisson tout près d'Aubervilliers et qui a été tué le 18 novembre 2015 dans l'assaut du Raid.
Et côté coulisses, Sophie, qu'est-ce que vous retenez de cette semaine ?
Alors côté coulisses, en fait, on a parté dans la salle des pas perdus. Eh bien, on a vu des victimes au trait tiré cette semaine. On en a entendu se raconter le week-end dernier. Vous savez qu'il a coïncidé avec les commémorations du 13 novembre et 6 ans jour pour jour après ces attentats. Eh bien, cette semaine, on a senti l'émotion flagrante pour un certain nombre de victimes. Elles étaient d'ailleurs moins nombreuses à venir assister au procès.
Sophie Parmentier, en direct du Palais de Justice de Paris pour France Inter. Merci à vous. Merci aussi à Olivia Branger pour la liaison technique. On continue bien sûr de suivre avec vous ce procès historique. Les Nations Unies réclament des preuves que la championne de tennis Peng Shuai se porte bien. Et le patron de la WTA, qui gère le circuit professionnel féminin de tennis, n'exclut pas de retirer les compétitions de Chine. La joueuse Peng Shuai a disparu depuis près de 3 semaines et ses accusations de viol à l'encontre d'un ancien soutien aux responsables du régime chinois. La Française Alizé Cornet s'inquiète pour sa consœur. Elle invite les champions de tennis à s'engager pour obtenir de ses nouvelles. La Chine qui s'insurge après la menace de boycott diplomatique des Jeux Olympiques de Pékin par les États-Unis. Autrement dit, Washington n'enverrait pas d'émissaire officiel, même si les sportifs américains, eux, pourraient participer. Mélanger la politique et le sport va à l'encontre de l'esprit olympique, proteste un porte-parole de la diplomatie chinoise. Le président Biden avait dit envisager cette mesure pour dénoncer le traitement par Pékin de la minorité ouïghour. Elle était hier l'invitée exclusive de France Inter, la chanteuse et star mondiale Adèle sort aujourd'hui son nouvel album. Comme ses précédents, l'opus est baptisé par un nombre, l'âge de la pop star lors de l'enregistrement, 30 en l'occurrence. Ce quatrième album, très sombre, revient sur la séparation d'Adèle et la descente aux enfers qui s'en est suivie pour elle. Mathieu Culeron s'y est plongé pour nous. There ain't no gold
in this river. Adèle revient avec son album Le Plus Noir. 30 résume la vie de la chanteuse originaire de Londres qui évoque son divorce, sa vie seule avec son enfant et sa lente descente aux enfers entre obligations de carrière et vie privée chaotique. Oh, what have I done yet again? Les longues balades sobres s'enchaînent, piano-voix, jusqu'à ce titre My Little Love où l'on entend Adèle pleurer et être réconfortée par son fils de 9 ans. Elle chante alors « Maman a beaucoup de choses à apprendre ». I feel like today is the first day since I left him not feel lonely. Plus le disque avance, plus la musique devient moins grave et plus enlevée. Les derniers titres sont principalement de longs gospels où Adèle déclare que l'amour est un jeu pour les fous. Après d'une heure, Adèle revient avec un disque sombre. Seule une lumière intervient discrètement à la fin d'un album qui devrait une nouvelle fois figurer parmi les plus gros succès mondiaux.
Il s'appelait Rock, Rock comme ses stars mondiales qu'il photographiait. Le photographe britannique Mick Rock est mort à l'âge de 73 ans. Dans les années 70, il capturait dans son objectif David Bowie, Queen, Lou Reed, Iggy Pop ou les Sex Pistols. Plus récemment, Janelle Monae ou Lady Gaga. On ignore pour l'instant les causes de la mort du photographe. Sur son compte Twitter officiel, ses proches lui rendent hommage parlant d'une véritable force de la nature qui passait ses journées à faire exactement ce qu'il aimait, toujours à sa manière, délicieusement scandaleuse. I like it. I can dance to it. Therefore it's good. Les plus célèbres clichés de Mick Rock sont à voir sur notre site franceinter.fr. Dans quelques instants, on parle de tout autre chose. Ce nouveau pronom non-genré, IL, qui vient d'apparaître dans Le Petit Robert. Notre invitée, la linguiste Julie Neveu, vient d'arriver en studio. Vos questions et témoignages 01 45 24 7000.
Optique 2000, pour moi les meilleurs opticiens. Madame Imola Stréo, à Paris 5e, nous dit pourquoi.
Ma fille Zoé a 10 ans et notre ophtalmo a constaté que sa vue avait baissé. Elle nous a conseillé les verres Essilor Stellest, qui permettraient de ralentir l'évolution de la myopie. Donc nous avons commandé les verres chez Optique 2000 et Zoé s'est adaptée très vite.
Kamal Baraka, l'opticien Optique 2000 de Madame Stréo, à Paris 5e.
Dans notre magasin, nous sommes très impliqués dans la santé visuelle de nos clients. Et comme le verre Essilor Stellest est une vraie innovation dans la lutte contre l'évolution de la myopie, qui est actuellement un problème de santé majeur, nous en parlons à nos jeunes porteurs myopes. Et Optique 2000 étant partenaire de nombreuses mutuelles, nous gérons tout pour eux.
Alors Madame Stréo, contente d'Optique 2000?
Ah oui, tout à fait. Et il s'occupe de tout.
Optique 2000, c'est le leader français de l'optique avec 1200 magasins près de chez vous.
Dispositifs médicaux, demandez conseil à votre opticien.
France Inter aime
l'énergie des promesses du début des années 80.
3, 2, 1. François Mitterrand est élu président de la République.
Les Magnétiques, un film de Vincent Maël Cardona.
Tu viens me voir à Paris. C'est pas la politique qui va changer le monde. C'est l'art, c'est la musique.
Dans une ville de province, entre les petits boulots et l'angoisse du service militaire, Philippe saura-t-il vivre sa passion pour la musique et la radio? Les Magnétiques, actuellement au cinéma, un film France Inter.
Allez, un petit coup d'œil vers le ciel.
La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes pour femmes. Laine, fil d'Écosse, soie ou cachemire. Belle et naturelle. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Bonjour Elodie Calac.
Bonjour à tous.
Du gris qui persiste sur une petite partie nord.
Oui, des côtes de la Manche vers l'Île-de-France, les Hauts-de-France, le Grand Est, là les nuages restent vraiment très nombreux. Quelques gouttes possibles même au nord de la Seine. Beaucoup de nuages aussi vers le Val-de-Saône jusqu'au Lyonnais. Et puis ailleurs, c'est vraiment le soleil qui s'impose. Alors quelques grisailles tenaces malgré tout vers le Val-de-Loire, la Gironde, les vallées alpines. Les températures, elles ressemblent à celles d'hier. 8 degrés à Dijon et à Lyon sous les nuages. 10 à Metz, 12 degrés à Paris, 13 degrés à Deauville, Brest, Limoges, Toulouse, 16 pour Biarritz et Montpellier, 18 à Marseille et 20 à Ajaccio.
Et pour le week-end, ça s'annonce comment ?
Alors demain, ce sera à peu près le même type de temps qu'aujourd'hui, c'est-à-dire de la grisaille tenace au nord de la Loire, retour de belles éclaircies ailleurs avec du soleil dès le matin en montagne et sur le sud-est. Et puis pour dimanche, retour de la pluie et température en baisse.
Merci Elodie Calac de Météo France. Il est 13h, presque 30 sur France Inter.
France Inter, le 13-14. Marion Loup.
Il y a deux pronoms, il et elle. La langue est si belle et deux pronoms, c'est bien. Ces mots sont ceux hier de Brigitte Macron, l'épouse du président de la République elle-même. C'est dire si la question déchaîne les passions. Cette question, c'est celle d'un pronom neutre pour désigner les personnes, quel que soit leur genre. IL qui remplacerait il et elle pour ceux qui ne souhaitent être identifiés ni par un genre ni par l'autre. IL, un pronom qui vient de faire son entrée dans le dictionnaire en ligne du Robert. Enrichissement de la langue pour la ministre à l'égalité des chances, Elisabeth Moreno, façon de la triturer à des fins militantes pour le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer. Pour parler de ces changements qui secouent la langue et l'opinion, une spécialiste, Julie Neveu, normalienne, maîtresse de conférences en linguistique à la Sorbonne Université, auteure du livre « Je parle comme je suis », tout juste publié en poche. Bonjour.
Bonjour.
Vos avis, vos témoignages, vos questions, chers auditeurs, 01 45 24 7000. Julie Neveu, après l'ajout de ce pronom dans le Robert en ligne, le ministre de l'Éducation estime qu'il ne faut pas triturer la langue française. Vous en pensez quoi, vous ?
Oui, moi j'aime bien la métaphore de triturer, où on voit que M. Blanquer pense qu'il s'agit peut-être d'une petite pâte à modeler, qu'on peut changer comme ça chacun dans son coin, et quand on s'énerve, voyez, lui donner une autre forme. Mais en fait, il se trouve que la langue n'est pas quelque chose, un objet, mais bien quelque chose de vivant, qu'on partage, et qu'on est 300 millions à cohabiter dans ce territoire. Et donc forcément, c'est difficile d'avoir un rapport de propriété à la langue.
Vous ne dites pas non plus que c'est une offense, comme Valérie Pécresse ?
Eh bien voilà, le problème c'est ça, c'est que une fois de plus, ces gens pensent que il y a une propriété de cette langue, propriété au sens de propriétaire, mais aussi au sens de ce qui est propre et sale. Vous voyez, donc triturer c'est sale, souiller comme la lettre du député c'est sale, mais en fait il y a un jugement de valeur ici. Or, il y a des gens pour qui c'est un besoin. C'est pas sale, c'est pas, vous voyez, c'est pas esthétique, c'est pas beau ni mal, c'est juste qu'ils ont besoin qu'on s'adresse à eux d'une certaine façon qui respecte leur identité.
Alors, à l'inverse, vous adhérez pas forcément non plus au terme enrichissement qui a été utilisé par la ministre de l'Égalité.
Ah si, j'aime bien enrichissement, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une possibilité de plus, donc enrichissement me va. Je voudrais surtout faire remarquer, en fait, à tous ceux qui s'énervent, que c'est pas le seul pronom non genré, on a déjà je, tu, nous, vous, qui ne donne aucune indication de genre. Donc en fait, c'est seulement la troisième personne du singulier et du pluriel qu'on a cette possibilité-là. Et bien sûr, ils ne sont pas obligés de s'en servir.
Et comment vous expliquez alors que ça suscite de telles passions, une telle polémique ?
Écoutez, c'est particulier au rapport des Français à leur langue. Ça arrive pas dans les autres territoires francophones déjà. Et il y a quelque chose de l'ordre de la fierté nationale. Moi, je reçois des insultes sexistes et très patriotiques sur les réseaux. C'est des gens qui aiment la langue. Je mets pas en doute. Ils me disent souvent, mais moi, je suis un amoureux de la langue française, madame. Et oui, j'aime aussi la langue, sinon je serais pas linguiste. En revanche, je ne pense pas qu'elle est meilleure, plus belle, et surtout, je n'exclus pas certains usages aux personnes qui cohabitent avec moi, en fait.
Alors, Julie Neveu, vous dites que ça correspond à un besoin. C'est oui. Vraiment utilisé aujourd'hui, ce terme IL. C'est vrai qu'on l'entend pas tous les jours.
Ah oui,
non plus.
Bien sûr qu'on l'entend pas. Et ça, je comprends aussi que ça choque et que ça surprenne. En fait, le plus grand monde ne l'entend pas, n'a jamais entendu. Et d'ailleurs, le plus grand monde n'a peut-être pas encore rencontré de personnes non binaires. Il faudrait peut-être organiser des rencontres.
Et pourtant, c'est 20%, c'est ça?
Non, c'est 22% des personnes des 18-30 ans qui se sentaient non binaires selon un sondage IFOP de fin novembre 2020, ce qui revient à peu près, j'ai essayé de calculer, à 5% de la population, ce qui n'est pas rien, en fait.
Ce qui n'est pas négligeable.
Ce qui n'est pas négligeable. Donc, oui, pour ces personnes-là, au singulier, quand on parle d'elle, moi j'ai des étudiants dans mes cours à la fac depuis quelques années, chaque année, hein, qui me demandent si c'est possible de pas dire il ou elle pour parler d'eux, donc d'elle, donc je dis y'elle, voilà.
Et vous êtes linguiste, ce terme il est apparu quand en fait ?
En fait, il date du début des années 2010, et c'est une proposition qui émerge de la communauté LGBT+, en effet, parce que c'est là qu'il y avait des personnes qui ont réfléchi à aux moyens en fait de pouvoir avoir une identité, enfin une forme linguistique qui corresponde à leur identité.
Et il y avait un neutre, alors vous dites il y a des pronoms déjà qui sont neutres, oui. Le je, le nous, etc. Il y avait déjà un neutre dans l'ancien français, un neutre à la troisième personne ?
Non, mais en fait, ce qui se passe, c'est que le pronom, vous voyez, c'est une forme très synthétique déjà. Elle reprend déjà, là si je dis votre nom de famille, Marion Lure, je n'ai pas besoin de donner, je donne toutes les caractéristiques qui sont votre identité, mais après si je reparle de vous, je vais dire elle, puisque vous voulez bien être identifiée avec une femme. Tous les pronoms réduisent les caractères. Donc là, c'est très typique, en fait, comme nouveau pronom.
Donc, IEL, ça désigne qui précisément ? Est-ce que c'est
alors,
une personne qui
si
se reconnaît pas
c'est
dans son
au singulier,
genre
c'est une personne qui ne se reconnaît ni comme homme ni comme femme, et souvent, IEL vous l'aura signifié. Voilà, donc vous écoutez ce qu'on vous dit. Et après, au pluriel, ça peut être pratique pour le langage inclusif. Et moi, j'ai des étudiants, c'est vraiment un problème de génération. J'ai des étudiants qui disent IEL, qui disent avec mes copains hier soir ou avec mes amis hier soir, et là, j'entends pas, pour désigner un groupe mixte, IEL sont partis à telle heure, voyez. Les musiciens ont beaucoup répété, IEL sont fatigués. Ils ont besoin de, IEL ont besoin de se reposer.
Oui, mais est-ce que c'est vraiment utile dans le sens où, quand on parle de quelqu'un à la troisième personne, généralement, c'est qu'il n'est pas là, en fait. Donc, dans quelle mesure ça joue un rôle d'inclusion ?
Là, j'ai fait entendre la mixité, par exemple.
Oui.
J'ai pas dit s'il y avait, j'ai pas utilisé
la forme.
Ouais.
Des hommes.
J'ai dit qu'il y avait des femmes et des hommes, en fait.
Et donc, ça, c'est préférable à accorder à ce qui est le plus proche, par exemple, dire il et elle sont partis ES.
En fait, on peut dire il et elle. Et ça veut dire exactement la même chose. Simplement, là, c'est une forme contractée, on parle de pronom valise qui a contracté il et elle, c'est exactement la même chose, c'est juste plus court. Or, en général, quand on s'approprie des formes, la langue va vers l'économie, si vous voulez. Donc là, il y a eu émergence d'un besoin d'une forme plus égalitaire linguistique. Donc souvent, moi je dis souvent ça, il et elle. Mais maintenant, IEL, oui, c'est plus court, c'est plus pratique.
Ce que je voulais dire, c'est est-ce que vous préférez ça à l'option de certaines féministes de dire on accorde avec ce qui est le plus proche, y compris quand c'est du féminin. Le masculin ne domine pas toujours.
Là, c'est encore une autre question. Mais moi, pour moi, tout est possible. En fait, je n'ai pas... Vous voyez, tout est possible. Les usages peuvent, doivent coexister, cohabiter.
Nous avons un appel d'Emmanuel au standard de France Inter. Bonjour Emmanuel.
Oui, bonjour à tous. Alors, je vais faire une remarque et une question.
Et à toutes.
La première remarque, c'est que je suis très fier du Robert. Parce que, comme vient de dire votre linguiste, les langues sont vivantes et donc elles évoluent. Et à partir du moment où elles évoluent plus, elles deviennent des langues mortes. Ça, c'est la première des choses. Après, transmission à Alain Rey, qui serait très fier du Robert. Et deuxième chose, comment on va se débrouiller ? Je suis super content pour accorder, quand on fait un courrier, sans choquer personne. Est-ce qu'on met un E et on considère que, par exemple, une personne transgenre est féminine, ou est-ce qu'on met pas de E et on considère qu'elle est masculine ? Comment on va se débrouiller ? Sachant que moi, je fais pas mal de courriers. voilà. Sachant que le but n'est pas... Parce que comment on est dans une société qui veut cliver tout le monde actuellement ? On est dans...
Merci.
Voilà.
Merci pour votre question, Emmanuel. Alors, on a compris que vous validiez la démarche, mais que vous vous posez des questions sur comment ça peut se mettre en œuvre. On a la même question au standard de la part de Bernadette, plus ou moins, qui dit comment vont s'accorder les adjectifs. Exemple, IEL est belle, IEL est beau. Julie Neveu, vous pouvez nous aider pour ça ?
Ouais, d'abord, je voudrais saluer Emmanuel, parce que c'est très rare, j'entends à votre voix que vous avez un certain âge. Et franchement, bravo, quoi, de rester ouvert d'esprit. Et c'est tout à fait, je suis d'accord avec vous, dans l'esprit d'Alain Rey, il aurait été très content, je pense, qu'on mette IEL dans son dictionnaire. Alors ensuite, eh bien la conjugaison, oui, c'est vrai que c'est encore un peu flottant. Donc ça ne va pas
les
mentir.
Les accords aussi.
Bien sûr, les accords sont flottants. C'est un usage qui est neuf et donc on cherche. Ensuite, moi j'accorde au masculin, puisque c'est quand même la forme qui reste la moins marquée, bien sûr, en français. Et puis sinon, si vous avez la personne non-binaire en face de vous, eh bien elle vous dira ce qu'elle préfère. Mais il y a eu d'autres propositions, vous savez, qui ne sont pas du tout encore apparues, comme bello pour ni belle ni beau. Voilà, mais on n'en est pas là, ne vous inquiétez pas.
Il va falloir inventer beaucoup de nouvelles formes. Donc, on a une question un peu plus critique, peut-être de la part de Michel au standard de France Inter. Bonjour Michel.
Bonjour. Alors moi, je suis une bonne lectrice dans le sens que je lis énormément. C'est ma passion, surtout depuis que je viens de quitter ma vie professionnelle. Mais alors, donc, j'ai pris par hasard à la bibliothèque un livre écrit en écriture. Mon Dieu.
En écriture inclusive.
Oui, mon Dieu. Écoutez, c'est désolant, hein, je suis désolée. Vraiment, c'est pénible. Hein. J'ai tout de suite compris ce qu'il voulait dire. On comprend, hein. Je peux dire il, elle, on comprend tout à fait. C'était pas paru dans le Robert, mais j'ai tout de suite compris que il, elle, c'était. Il n'y avait plus d'il ni d'elle, mais il y avait les. Mais c'est désagréable. En plus, le lecteur subit un appauvrissement. Parce que quand vous avez elle, ça vous rappelle que la personne qui parle, ou la personne dont on parle, ou la personne à qui on répond dans le récit, sur le livre, eh bien, cette personne est du sexe féminin et c'est facile. C'est facile pour le lecteur. Là, vous compliquez les choses.
Merci pour votre question, Michel. Julie Neveu.
Oui, merci, Michel. Alors, écoutez, je pense, pour être très honnête, d'abord, deux choses. Vous pouvez rapporter ce livre à la bibliothèque, parce que vous n'êtes pas forcé de continuer à le lire s'il vous dérange, ça, c'est sûr. Ensuite, il y a peut-être trop de nouveaux usages. Et ça, c'est vrai que c'est une question de dosage. Hein. S'il y en a trop, honnêtement, ça heurte la lecture et c'est plus lisible, il n'y a plus de fluidité. Et la troisième chose, c'est que malgré tout, je pense que je dois vous dire que, à vous écouter, ce n'est pas au changement linguistique que vous êtes rétif, c'est aux changements sociaux. En fait, parce que non, c'est pas un appauvrissement au sens que vous dites, puisque finalement, si on n'utilise pas elle ni il, c'est bien que la personne a voulu désigner soit une personne non binaire, enfin la personne qui écrit, et donc c'est une nouvelle forme d'identité. Et celle-là est spécifique, vous voyez, c'est autre chose, mais c'est très caractérisé. Ou alors, si c'est au pluriel et qu'il y a un moyen de, c'est un moyen donc de ne pas dire si c'est le masculin ou le féminin, là, c'est bien pour envisager un potentiel plus riche, voyez, que ce que vous voudriez déterminer davantage. En fait, Yel est une forme peu déterminée, c'est ça qui gêne. Mais une fois de plus, allez remettre le livre aussi. Tout simplement.
Alors, le patron du Robert dit qu'il n'a pas voulu faire un acte militant en ajoutant ce mot à son dictionnaire. Mais le député LREM François Jolivet a écrit à l'Académie française pour dénoncer les militants du wokisme, une forme de politiquement correct en quelque sorte. Vous vous dites quoi? C'est militant ou pas militant de mettre IL dans le dictionnaire?
En fait, ils font leur travail. C'est le travail du lexicographe. Le lexicographe, il observe les usages, et si les usages commencent à se développer, il les répertorie, il les fait voir, il les fait entrer dans son dictionnaire. Après, les locuteurs regardent. Le Robert en ligne a fait ça parce qu'il y avait de plus en plus de requêtes qui n'aboutissaient pas. Parce que les gens rencontraient, que vous le vouliez ou non, ils rencontraient, en fait, des usages, des emplois de ça. Est-ce que c'est militant d'avoir une ligne éditoriale qui consiste à suivre l'évolution de la langue un peu plus en temps réel que parfois? Je ne sais pas. En fait, tout langage est politique d'une certaine façon, oui. Et donc, les enjeux sociaux sont reflétés par les décisions linguistiques.
Un appel de Marie au standard de France Inter. Bonjour Marie.
Bonjour.
Vous avez un témoignage à nous apporter.
Oui, voilà, moi je suis depuis toujours une IL. Donc quand j'étais petite, on m'appelait garçon manqué et ça m'embêtait beaucoup le côté manqué. Et j'ai fait des enfants, donc des ovaires qui fonctionnent parfaitement. Mais pour tout le reste, je suis 100% ce qu'on appelle un garçon. Je regarde des émissions de voitures, de motos, je bricole.
Alors ça, les filles peuvent le faire aussi, vous savez.
Oui, mais bon, je dois dire que même dans les garçons que je fréquente, il y en a très peu qui s'intéressent au recyclage de vieilles voitures des années 30. Enfin, bon, voilà. Et j'aime bien. J'ai fait des métiers de garçon. J'étais dans la construction. Et effectivement, quand on croise, la première idée qu'on a, c'est que je suis un garçon. Et il y a tellement de gens que même quand je leur ai dit que je suis madame, ils recommencent avec monsieur 3 minutes après.
Donc vous êtes en clair, vous êtes content ou contente. Du coup, j'ai du mal à savoir comment dire que ce pronom arrive dans la langue française.
Oui, moi je suis très contente et c'est très adapté à tout un tas de gens que je fréquente qui sont franchement indéterminés au premier regard. Une fois qu'on les connaît, on sait très bien qui est qui. Mais entre les gens qui sont nés indéterminés, les gens qui ont des problèmes de d'hormones, etc., on n'est pas là. Après, si c'est un garçon qui est très 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 féminisé et qui veut visiblement qu'on le prenne pour une fille, appelons-le le elle et on va pas l'embêter à lui rappeler qu'on a bien vu que t'étais un garçon, mais bon.
Merci voilà. Marie. Merci Marie. Julie Neveu.
Oui, ben Marie, là, c'est typique, c'est-à-dire qu'elle a des caractéristiques à la fois masculines et féminines. Or, le neutre dit ça, Barthes le disait déjà, hein, qu'il fallait une notion du neutre qui puisse intégrer plus de complexité que la simple distinction entre le masculin et le féminin. Et enfin, je voudrais juste dire qu'il y a beaucoup d'autres langues qui s'interrogent en ce moment là-dessus. Hein. Il n'y a pas que le français du tout. C'est une problématique qui traverse
l'anglais, beaucoup.
L'anglais évidemment, mais aussi l'espagnol, aussi l'allemand. Donc l'espagnol, ils ont proposé les terminaisons « e », pour pas dire « niños » ou « niñas », les petits garçons et petites filles, ils disent « niñes ». Voilà, donc c'est en cours de réflexion.
Julie Neveu, autrice de Je parle comme je suis, tout juste publié en poche aux éditions Point. Merci d'être venue sur France Inter.
Merci à vous.
France Inter. Le 13-14.
À 13h43, à suivre sur France Inter. Un jour dans leur vie, votre feuilleton consacré cette semaine au chorégraphe Gervais Thomas Diatunga, chorégraphe engagé, vous le verrez. Pour lui, la danse raconte des choses vraies. Le vif de l'histoire. Bonjour Jean Lebrun.
Bonjour Marion et aux auditeurs.
C'est ça.
Je tente
Jean
ça.
Jean Lebrun qui raconte toujours des choses vraies, lui aussi. Une céréale au menu aujourd'hui.
Le blé.
Rendez-vous juste avant 14h. Et tout de suite, c'est une chanson. Bonjour Frédéric Pommier.
Bonjour Marion.
Voilà plus de 30 ans qu'il collecte les traits d'humour dans les bistrots, ces fameuses brèves de comptoir dont on peut voir actuellement une nouvelle adaptation au théâtre de l'Atelier à Paris. Le spectacle a pour titre Tournée générale, à votre micro, l'auteur et scénariste Jean-Marie Gouriot.
Qui a commencé sa carrière dans la presse au milieu des années 70, au magazine Harakiri. Puis à Charlie Hebdo, dont il fut un temps le rédacteur en chef adjoint. Il était copain de Choron, copain de Cavana, de Cabu, de Volinsky. Et la chanson dont il a voulu me parler, Jean-Marie Gouriot, elle est et restera liée pour lui à l'attentat contre Charlie le 7 janvier 2015.
Donc il y a eu la journée de l'attentat. J'ai pris ça en pleine gueule, attentat. Après il y a eu la nuit de l'attentat. Et après, il y a eu le lendemain, avec cette espèce de truc qui a enflé sur la France. On voyait les photos partout, des gens qui avaient été exécutés. Et moi, je m'enfonçais, et je buvais comme un fou. Et de jour en jour, de nuit en nuit, j'ai complètement perdu la tête. J'ai déliré. J'avais des hallucinations, je voyais ma mère qui tuait des enfants. Je voyais du sang partout. Je faisais des trucs, j'ai téléphoné à la brigade des mineurs pour dire qu'ils aillent faire une perquisition rue du Cherche-Midi, où ma mère était concierge quand j'étais petit, qu'il y avait des bébés morts dans les caves, qu'il fallait creuser. Donc les flics, ils me disaient, mais monsieur, on peut pas faire ça, faut faire avec un juge d'instruction. J'appelais mon éditeur. Je disais, aidez-moi, faut appeler la préfecture, qu'ils envoient des équipes. J'étais barré. Donc je buvais et j'écoutais la musique à fond la nuit. Alors j'écoutais Bachoum, je m'enfonçais. J'écoutais Arnaud, je m'enfonçais. Barbara, je m'enfonçais. Et tout d'un coup, Ismaëllo. Faut qu'on s'aime.
Faut pas rêver, c'est plus la peine. Faut plus mentir, jouer des scènes. La seule réponse à tous nos problèmes, faut qu'on s'aime. Toutes nos histoires, où ça nous mène. Des cris, des larmes, c'est tout ce qu'on s'aime. C'est le moment de changer de rengaine pour qu'on s'aime.
Mais alors, quel effet cette chanson a-t-elle eu sur Jean-Marie Gouriot, Frédéric ?
Eh bien, premier effet, l'envie de l'entendre de nouveau. Et ce disque d'Ismaëllo, Jean-Marie Gouriot l'a donc écouté en boucle.
Je le mets, et je le remets, et je le remets. Et je le remets, et je bois, et je le remets. Et je passe des jours et des nuits, j'écoute, et je bois, et j'écoute. Et petit à petit, Ismaëllo, faut qu'on s'aime, me ramène en surface, me répare. Et après, ça va mieux, et je me remets à écrire. Et alors là, j'ai une frénésie d'écriture, j'ai écrit plein de bouquins un peu sympas. Et là, j'ai vu qu'une chanson m'a sauvé de la folie. J'allais crever. Alors, on dit des fois, comme ça, c'est des mots qu'une chanson peut sauver. Eh bien, cette chanson d'Ismaëllo m'a sauvé la vie.
On se fait des bleus, on se fait des scènes. Sécher nos yeux, ça vaut la peine. Est-ce qu'on va rester toujours les mêmes? Faut qu'on s'aime.
Est-ce que vous savez, médicalement, ce qui s'est passé? C'est la boisson qui vous a amené à délirer à ce point ?
Un stress intense, immense, qui m'a fait dérailler. Donc je devais avoir une base de schizophrénie. Et tout d'un coup, elle s'est développée à toute vitesse. Et j'entendais des voix, ça hurlait, des cloches, la musique à fond. Voilà. Et en plus avec l'alcool et tout ça, quoi. Et il y a cette voix d'ange d'Ismaëllo qui m'a tiré de l'horreur.
C'est un ange.
Oui, absolument, c'est la voix d'un ange.
Est-ce que vous avez eu l'impression que c'était vos amis de Charlie qui vous envoyaient ce message aussi, pour dire calme-toi ?
Il y avait ça aussi, c'est lui qui a fait revenir la voix vivante de ces gens. Je pense c'est grâce à lui qu'ils sont revenus et qui m'ont dit arrête de faire le con. Déjà arrête de boire, calme-toi et écris des jolis livres.
Donc dans vos livres finalement vous avez dit à peu près la même chose, faut qu'on s'aime.
Ouais, et je crois que je vais pas m'arrêter de le dire.
qu'on s'aime, Ismaël Lo, c'était donc Frédéric Le Choix et l'histoire de Jean-Marie Gouriot.
Dont la nouvelle adaptation des Brèves de Comptoir, tournée générale, est à voir en ce moment même au Théâtre de l'Atelier à Paris. C'est dans une mise en scène de Jean-Michel Ribes.
Jean-Michel Ribes, invité à 7h50 de France Inter. Demain, quant à vous Frédéric, on vous retrouve la semaine prochaine. Il nous a fait danser toute la semaine, dernier épisode de notre feuilleton aujourd'hui, une semaine dans la vie du chorégraphe Gervais Thomas Diatunga. La danse a sauvé ce natif de République démocratique du Congo, enfant soldat malgré lui dans les années 90, puis employé dans les mines de coltan. Aujourd'hui, alors qu'arrive sur scène son nouveau spectacle Réalité, il raconte à Stéphane Capron comment sa danse raconte les choses vraies.
Donc là, je vous fais écouter la musique de Papa Wemba.
Le grand Papa Wemba. Donc là, vous écoutez, on a remixé le grand Papa Wemba dans Réalité. Parce qu'il fallait, quoi. C'est le phénomène de la musique congolaise qui a révolutionné la nouvelle génération. Fallait le mettre en valeur.
La musique est un élément essentiel des chorégraphies de Gervais Thomas Diatunga. Pour Réalité, il a travaillé avec Raphaël Penaud. C'est lui qui a réalisé ce mix de Papa Wemba, de la musique joyeuse. Car dans ce spectacle, comme dans tous les autres, Gervais Thomas Diatunga souhaite rendre compte de la diversité des émotions qui le traversent depuis ses années d'enfant soldat jusqu'à la liberté.
Réalité, parce qu'il y a plusieurs réalités. Parce que dans ma vie, il y a eu beaucoup de réalités. C'est magnifique et je ne pouvais pas garder ces réalités pour moi. Parce que le monde entier, les gens ont besoin de voir ces réalités. Dans Réalité, on va partager toutes les réalités, malgré nous, malgré la violence que j'ai vécue dans ma vie, malgré la violence qu'on continue de subir jusqu'à aujourd'hui. Dans nos pays, on arrive à s'en sortir. On ne baisse pas les bras. Dans Réalité, c'est ce que les gens ils vont trouver. On va partager avec le public, on va faire voyager le public dans le passé sombre et dans le présent. La vie peut être belle si on se donne les moyens, si on croit en soi.
Aujourd'hui, on a tous des téléphones portables, on a tous des ordinateurs et malheureusement, dans ces ordinateurs, il y a justement ce minerai que vous avez extrait pendant une partie de votre vie et qui fait qu'il y a des enfants aujourd'hui qui sont contraints au travail. C'est un des malheurs de la société.
C'est pour ça aussi que je crée Réalité parce que je me suis rendu compte, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas conscience de ce que c'est le coltan. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des enfants qui creusent. Déjà, il y en a, ils parlent même pas le français, donc ils savent pas. Pour eux, ils creusent de la terre que les étrangers achètent. Ils nous exploitent, mais il y en a, ils n'ont pas conscience. On a les téléphones sur la main avec les sangs des jeunes qui meurent au Congo. Parce que ce coltan, en fait, cette minerai-là qu'on a, c'est aujourd'hui, c'est comme une malchance qu'on a au Congo d'avoir ces minerais. Parce que les gens, ils meurent. Et nous ici, on n'a pas conscience de ça. Après, moi, j'en veux pas aux gens. C'est pas de notre faute. Hein. L'idéal, c'est leur conscience puisse se réveiller, qu'ils s'intéressent de ce qui se passe au bout du monde. On est dans une société où on nous protège parce qu'on veut pas nous dire de la vérité. On nous parle plutôt de la colonisation, mais pas de la décolonisation ou pas comment la colonisation s'est passée. Nous, on nous dit que le Congolais, le général de Gaulle, a donné l'indépendance aux Congolais. Mais non, on ne nous a pas dit la vraie réalité des choses. On ne nous a pas dit que les Français a eu un temps que c'était les Congolais et qu'ils sont réfugiés au Congo. Et que le Congo, c'est la capitale de la France libre. Donc ça, nous devons s'y prendre conscience d'apprendre les histoires des autres. Parce que c'est important. Parce qu'on est tous des êtres humains. Si on arrive à se mettre tous au même pied d'égalité, nous allons construire notre monde. Parce qu'elle est belle. Tout simplement. Donc aujourd'hui, ce spectacle, la réalité, ce coltan, va réveiller beaucoup de conscience.
Gervais, diriez-vous que vous êtes un chorégraphe engagé ?
Oui, je suis un chorégraphe très engagé. Et je n'ai pas peur de témoigner. Parce que pour moi, la danse a besoin que ça soit vivant, a besoin qu'on raconte des choses vraies. Monter sur le plateau, pour moi, ce n'est pas d'inventer des histoires ou lire quelque chose. J'ai besoin de témoigner. Pour témoigner, j'ai du vécu. Donc je m'inspire de ça. Et je suis un danseur engagé. Et ça... ça va continuer jusqu'au fin de ma vie, d'être engagé. Parce qu'on a besoin de ça dans le théâtre. On a besoin des spectacles qui parlent, qui racontent des histoires, parce que ça nourrit le public. Le public a besoin de se nourrir quand il vient au théâtre, même s'il vient parfois pour se distraire. Mais il y a des spectacles, ils ont besoin de les voir, de les vivre. Parce que ça permet de voir la vie autrement.
Une semaine dans la vie du chorégraphe Gervais Thomas Diatunga, feuilleton de Stéphane Capron réalisé par David Le Prince à réécouter sur franceinter.fr.
France Inter. le 13-14.
Et on retrouve Jean Lebrun pour le vif de l'histoire, l'actualité étudiée à la loupe de l'histoire. Jean, le journal L'Opinion a consacré un dossier au prix du blé dans le monde sous le titre « La flambée de tous les dangers ». Les céréales, c'est la moitié des surfaces cultivées dans le monde. Le blé représente un quart, mais il se fait rare et cher, autour de 300 euros la tonne.
Eh bien, pour nous, depuis une cinquantaine d'années, blé, ça signifie souvent fric.
Mais oui.
Mais je voudrais qu'on s'entende sur ces sens plus anciens. Au 19e, qui va nous retenir aujourd'hui, il désignait tout grain dont on pouvait faire du pain, toute céréale panificatrice d'hiver ou de printemps. Le froment, mais aussi bien le métail, le seigle, l'orge, le sarrasin. Dans la France paysanne, on limitait le plus possible l'usage du froment pour soi et sa famille, parce que s'habituer à son goût savoureux, ça aurait été risqué d'en consommer davantage. Mmh. Et la prudence, au contraire, commandait d'économiser en prévision d'une crise de subsistance possible. On se souvient de la recommandation faite aux enfants, qui ne savaient pas par quel labeur le pain était venu. Ta faim, mange ton coude.
On mange ta main.
Ouais. Le pain n'était pas à la base de l'alimentation de nos paysans. C'était la soupe, la nourriture fondamentale, et souvent le plat unique. Des céréales pouvaient s'y retrouver, maïs, millet, sarrasin, mais la châtaigne et la pomme de terre y jouaient un rôle premier, la châtaigne. Mmh. Le châtaignier ne déclinera qu'atteint par une maladie contemporaine du phylloxéra à la fin du 19e siècle. C'était l'arbre à pain. Et quant à la pomme de terre, tenez Frédéric, voilà une chanson berrichonne, chanson comme vous les aimez. Le petit qui dans son lit, qui braille, qui crie, qui fait la vie, sa mère lui dit, veux-tu te taire ? Eh bien, bourrons-le de pommes de terre.
Voilà, vous nous le chanterez la prochaine fois, Jean.
C'est Frédéric, c'est son rôle. Pour en revenir au pain, pour ne pas en dévorer trop et trop vite, et aussi pour économiser le combustible, étaient cuites de grandes fournées à un rythme lent, tous les 3 jours par exemple, mais aussi parfois, à la montagne notamment, une fois l'an. Un pain si dur qu'il fallait le couper à la hache, et néanmoins très fin, bah, c'était nécessairement à consommer avec modération. Mmh. Dans les campagnes françaises, le four familial ne commencera vraiment à céder la place au four du boulanger qu'au milieu du 19e.
Et le blé, c'est donc d'abord une question des villes. Il se négocie aujourd'hui 2 fois plus de blé dans le monde qu'il y a 20 ans. C'est une conséquence de l'urbanisation rapide à l'œuvre dans le monde, Jean.
Et alors le citadin, non seulement il veut son pain quotidien, mais il le veut frais et goûteux. Le pain, ce n'est plus pour lui le fruit d'un long labeur, mais un moment de plaisir. Une anecdote significative. En 1869, le gouvernement impérial, dans sa mansuétude, veut fournir un soutien aux Parisiens pauvres sous forme d'un bon d'achat de pain noir. Eh bien, les bénéficiaires l'utilisent, mais en y ajoutant un peu de menu-monnaie pour acheter du pain blanc. Bon, ils savent pas ce qui les attend peu après avec le siège de Paris, mais la différenciation est activée depuis longtemps. Le citadin ne mange pas le même pain que le paysan. Et il ne s'agit pas seulement de pain. Le paysan reste durablement végétarien, même s'il dispose d'un porc, alors que le citadin devient carnivore. À la recherche d'une alimentation diversifiée, il entend ne plus consacrer au pain qu'un pourcentage minoritaire de son budget d'alimentation.
Non, encore faut-il que le pain lui parvienne. Hein. Dans la crise actuelle du blé, on constate qu'une dizaine de grands pays seulement en exportent de manière significative.
Dont la France encore, qui reste dans le peloton de tête. Après la Russie, avec l'Ukraine, avec les États-Unis, l'Égypte par exemple, attend beaucoup de blé de la part de la Russie. Et les 2 premiers pays producteurs, eux, n'exportent pas ni la Chine ni l'Inde. J'en reviens à chez nous, au 19e siècle. L'amélioration des canaux, le développement des chemins de fer ont beaucoup fait pour la fluidité des échanges. Et aujourd'hui, 80% du commerce du blé se fait par la mer. Mais on en reste à l'analyse de Michelet, au 19e siècle toujours, qui disait « Chaque pays, il parlait des provinces françaises, mais peu importe, tient son blé captif. Les greniers de la Beauce peuvent crever de réserve, ils ne s'ouvrent pas aux voisins affamés. » Ben le blé, qu'on le retienne ou qu'on le libère, reste une arme d'intervention de première importance dans la géopolitique d'aujourd'hui.
La moisson de Jean Lebrun. Merci Jean. Les auditeurs vous retrouvent demain pour Intelligence Service au menu.
Simone Veil, la philosophe.
Et ce sera vers 18h10. Pour l'instant, il est 13h58. Et dans vos oreilles, le prochain, c'est Mathieu Vidard et sa Terre au Carré.
Avec
bonjour
mon ticket,
Mathieu.
J'attends.
Vous attendez,
dans la file,
voilà, bah, à votre tour. Aujourd'hui, c'est le club.
Eh bien oui, on parlera agriculture d'une série mythique pour enfants et des singes.
Bah, très bien, rendez-vous juste après le flash.
À tout de suite.
Un grand merci à tous ceux qui ont participé au 7-9 cette semaine à la rédaction en chef Sarah Guibaudot. 7-9, n'importe quoi, 13-14 évidemment. je me crois trop tôt. À la rédaction en chef Sarah Guibaudot, Thibaut Cavaillas, Estelle Schmitt, Anne Patinec, assistée de Claire-Sophie Collet, Rachid Zourdani, Caroline Desrosiers pour leurs doigts de fée derrière la console. Merci à Arnaud Caillé et Ludovic Asselot. Et grand merci également aux standardistes de Radio France, Jade Riaï et Alice Galtier.